This ad is made from 100% recycled commercials. Just like Smartwater's
all new
bottles are made from
100% recycled
plastic.
What's that number again?
100%. Every Smartwater bottle is made using recycled plastic. And because it's still
100%
recyclable, the plastic will be used again.
And again.
Smartwater. Now in a 100% recycled plastic bottle. Label and cap 100% recyclable but not made from recycled plastic. Yet. We're working on it.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
L'After Foot en direct de Strasbourg.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là en direct de Strasbourg. Bonsoir Strasbourg. On est ravis d'être avec vous ici pour notre cinquième étape de notre after tour. On est à quelques centaines de mètres du stade de la Méno, dans le local de la Fédération des supporters du Racing, qui nous accueille royalement. Merci à tous pour votre accueil. Et on va passer 3 heures ensemble dans un after. Ce soir, uniquement à la radio. Alors ceux qui ont l'habitude de nous suivre à la télé, il faut allumer la radio ce soir. C'est à l'ancienne, donc ce soir l'after, mais ça marche. Vous allez voir.
Et vu le physique de certains, c'est pas si mal en soi.
Merci Julien.
Je n'ai pas cité de nom, chacun se reconnaîtra comme il veut.
Alors messieurs, dames, comme on est à Strasbourg, on s'est dit qu'il fallait qu'on amène l'un des plus illustres d'entre nous, qui a eu quand même le privilège de jouer au Racing, plus de 50 matchs, il a même marqué un but. Ouais. Bon, il a aussi fait descendre le club en D2, mais bon, c'est Pierre Ducrot qui est avec nous, on peut l'acclamer quand même.
Ouais. Bonsoir à tous, j'étais pas tout seul hein, quand même pour descendre.
C'est vrai, surtout que tu es un des meilleurs de l'époque.
Si ce n'est le meilleur.
Comparé à Renteria, par exemple.
Non, mais tout le monde est d'accord, je suis sûr.
Daniel Riolo est là également, bien sûr. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Julien Cazard, qui a fait le déplacement jusqu'à Strasbourg, malgré
je suis ravi, parce que déjà Strasbourg est peut-être le seul club allemand que le PSG va battre en mars de cette année. Et que... Non, je déconne. D'ailleurs, je vous remercie, bravo, parce que vous avez eu deux occasions dans l'histoire de rejoindre la Bundesliga, et vous avez préféré rester en Ligue 1. Et ça, c'est beau, et c'est respectable. Bravo Strasbourg. Et tant pis surtout. Quel dommage. Vous auriez pu jouer contre des Red Bull Leipzig, Bayern, être obligé de jouer à Amiens et tout. T'as un choix.
Bon allez, retourne au bar. Oui, tu viens nous voir tout à l'heure.
On vient
pour le quiz, bien sûr.
J'ai bien ça aurait été avec qui le derby en Bundesliga, Strasbourg, la ville la plus proche.
Karlsruhe.
Bundesliga. Karlsruhe, ils sont pas en Bundesliga.
Ouais, mais Karlsruhe, il y a des liens quoi.
Fribourg
est en Bundesliga et
Fribourg,
pas loin.
Voilà, Fribourg.
Ouais. Sinon, il y a Francfort pas trop loin, mais.
Ah ça, ils ont déjà fait.
Voilà. C'était pas top. Alors évidemment.
Il y a quoi alors à la télé puisqu'on n'y est pas du coup.
Dehors de l'info.
Sur la chaîne où on est d'habitude. Il va se passer quoi?
Dehors de l'info. Un truc moins bien que l'after.
Ah, c'est quand même étonnant ça.
Bah ouais.
D'accord. Et Pierre, tu dis tout le temps, il a fait descendre le club.
Mais c'est pour le chambrer.
Ben non, mais surtout ce que j'avais complètement oublié, c'est qu'il est dans le match de 2009 à Montpellier.
Ouais, donc
qui peut être celui de la montée.
Je suis pas que dans le match de la défense, mais aussi celui où on remonte pas quoi.
Ouais.
C'est ça.
Non mais c'est pas passé loin quand même.
Ouais, non c'est vrai.
Bon, j'avais complètement oublié que t'étais dans ce match que j'ai commenté à l'époque pour.
Il me laisse dire que je t'ai pas laissé un souvenir.
Mais non, mais t'étais dans cette équipe entraînée par Furlan et tout, qui était une belle équipe. C'est pas mal du tout.
Un but près, on est en Ligue 1.
Le problème pour nos RMC, c'est que le coach d'en face c'était Roland Courbis.
Et c'est Roland qui finalement a entraîné la catastrophe qui a suivi pour Strasbourg.
Voilà, et Roland
et après
qui revient, nous voir à la radio triomphale, je monte en Ligue 1. Autant te dire que j'avais pas trop envie de lui parler, mais bon, c'est voilà. Enfin, c'était Roland quoi en face. Alors, tout à l'heure les drôles de l'âme, bien sûr. Fred Hermel et Simone Rovira seront là pour l'actu espagnole et italienne vers 22h30. Mais l'événement, évidemment, c'est le Racing. Ce soir ici, on est à Strasbourg. On va débattre de la situation sportive du club. On va parler de son identité qui est spéciale. Et nous recevrons. C'est une première.
C'est marrant que t'aies choisi de parler de ce genre de thème.
Ça te plaît en général?
Ouais, mais ouais, non, mais surtout toi, parce que là, tu vas pouvoir. Limite, j'aurais éteindre le micro, je voudrais t'entendre avec eux, quoi. Parler entre vous.
Pour une fois qu'on t'entendra moins. Hein,
parler entre vous, ça va me faire plaisir.
Et puis, c'est une première tout à l'heure, le référent supporter du club, Arnaud Zimanski, qui sera avec nous, nous expliquera son boulot. C'est un sujet dont on parle souvent, les gars, dans l'after. On a reçu à plusieurs reprises les responsables de la lutte anti-hooliganisme, les patrons de la Ligue, Didier Quillot, il n'y a pas si souvent, qui nous parlait du rôle du référent supporter. Et on sait que la tribune, qui est occupé par la quasi-totalité des gens qui sont là parmi nous. Vous êtes tous dans la tribune, dans le mur bleu, j'imagine, vous qui êtes ici dans le local celle des supporters. Et ben voilà, ça nécessite une organisation qu'on va expliquer tout à l'heure avec Arnaud, bien sûr. On parlera également de Lyon, un petit peu après le derby d'hier. La bonne passe lyonnaise est-elle seulement une illusion? Ce sera dans un peu plus d'une heure. L'actu du jour, la chronique de Julien qui va revenir sur le Barça et le quiz. Un quiz a priori spécial Strasbourg qu'a préparé Julien tout à l'heure en fin d'émission pour les courageux qui seront encore avec nous. À 23h30. Le 32-16 est ouvert pour vous tous qui nous écoutez. Le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio, bien sûr, pour nous envoyer vos messages. Et puis on a quand même deux directs qui ne concernent pas directement le Racing. C'est de la Ligue 2, Paris FC, Lens, Lucas Vinoy, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous. Oui, en effet, 0-0 après 21 minutes de jeu. 0-0, mais une très belle ambiance quand même, parce que plus de 1000 Lensois ont fait le déplacement. Et il faut le noter, c'est une très très belle ambiance, comme à Strasbourg, j'ai envie de dire, Gilbert.
Très bien, mais tu nous tiens informé.
Charletti, 1000 Lensois, ouais, c'est comme sûr. À la Méno, bah dis donc.
Pas sûr quand même.
Parce qu'il doit pas y avoir grand monde.
C'est une très belle ambiance, je comparais l'ambiance, non pas le nombre de supporters.
Ah, oui.
Je sais pas, on a quelques spécialistes autour de la table, ils vont me dire la dernière fois qu'il y a eu un Paris FC, je sais pas s'il y en a eu un récemment d'ailleurs, un Paris FC Strasbourg, ils étaient en national.
Oui, là, oui, là.
Je sais pas. Ça me dit rien.
National,
oui. Et Philippe qui est là. En national, il y a eu un Paris. Et il y avait combien de Strasbourgeois là-bas?
Oh, assez nombreux, parce qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de supporters du Racing.
Voilà. Plus que les Lensois, tu veux dire. Alors, avant que vous preniez la parole, messieurs, il faut que je vous annonce à tous que RMC vous fait gagner vos places pour le match PSG Dortmund. C'est le mercredi 11 mars. Pour remporter ces places, c'est très simple. Il suffit d'envoyer foot par SMS au 732-16 dès maintenant. Vous envoyez foot par SMS au 732-16 et il y aura un signal sonore dans la soirée, peut-être, qui déterminera donc le... moment d'envoyer votre SMS. Quand vous entendez le signal sonore, vous envoyez foot par SMS au 732-16.
On offre des places bien sûr parce que ce sera à huis clos et qu'on n'aura rien à débourser.
Peut-être. Le signal sonore c'est celui-là.
Hein. Ah, ça va pas plaire ça.
Eh oui, fallait, bah oui, forcément.
Mais c'est vrai qu'il y a risque que le cadeau tombe à l'eau. Hein. De plus en plus, on en parle.
Vous savez qu'en Suisse, aujourd'hui, le championnat a été reporté jusqu'au 23 mars. Tous les matchs arrêtés.
Et les matchs de Ligue des Champions, match retour, je te dis que ça peut y avoir des dégâts.
Ouais. Tu fais ton Jean-Michel Aulas.
Alors,
Jean-Michel Aulas, de façon très opportune, et vraiment, je me suis dit, mais comme par hasard, j'ai trouvé ça très étonnant de sa part, il a dit, ça me dérange pas, moi, si Juve et Lyon se jouent à huis clos.
Oh, il a même dit.
Même délocalisé. Oh,
oui,
c'est étonnant.
Il a même dit que ça devrait être délocalisé.
Ah, ouais, je pense que là, je pense qu'il va, s'il peut mettre la pression, il va tout faire pour. Il dit, oh non, moi, je veux pas qu'on y aille, on sait jamais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça peut l'arranger.
On en reparlera. Il y a un Strasbourg PSG ce week-end ici. Évidemment, il n'y a pas que celui-là. Hein. Il y a plein
combien
de matchs.
Combien 3K à Strasbourg pour l'instant. Ça va, c'est plutôt épargné.
5. Ouais.
Non, 5. Je veux dire dans la ville, il me semble. Pour l'instant, à 5, c'était 3. C'était 3 il y a une heure.
Ah, mais il y a un match vite, maintenant.
Hein. Bah, t'es arrivé à quelle heure?
<C'est> 7h30. Voilà.
Bon, accueillons nos invités. Enfin, nos invités, c'est nous qui sommes leurs invités, à vrai dire, parce qu'on venait là ici avec eux. Philippe, d'abord, qui est le président de la Fédération des supporters, qui nous accueille. Salut Philippe.
Bonsoir, bienvenue.
Bah, merci à toi de nous accueillir. On a également Frédéric de Planète Racing, qui a un mouvement qui suit le Racing. Alors il y a une émission, il y a les réseaux sociaux de Planète Racing. Frédéric également, bonsoir Fred.
Bonsoir, merci de nous accueillir aussi.
Et autre mouvement social de référence ici à Strasbourg, c'est Racing Stube avec Maxime qui est là. Salut Maxime.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Alors les gars,
Racing Stube.
Racing Stube.
Ça veut dire quoi?
Ah bah c'est comme le Wienstube, mais...
Okay. Explique-lui ce que c'est qu'un Wienstube.
Ah oui, voilà, oui.
Ah bah c'est le restaurant traditionnel alsacien où on se retrouve pour discuter.
C'est quoi? C'est on pourrait la taverne, une petite taverne,
c'est ça,
l'équivalent
traditionnel
pour que Daniel comprenne.
C'est
ouais,
ça.
La taverne. Pas que moi, on parle à des auditeurs et tout le monde ne connaît pas la culture alsacienne.
On parle
c'est
à la
important
France
pour
de
tous les gens qui nous écoutent de partout en France.
La France de l'intérieur.
Et pas qu'en France
de l'intérieur. Ouais, c'est ça.
Ah bien.
On dit comme ça, France de l'intérieur.
Outre-Vosges.
C'est-à-dire.
La France de l'intérieur.
Tout le reste.
Entre l'Alsace et la Bretagne.
Ah, ok. Ah oui, c'est bien, j'adore. J'aime bien moi, ce genre de choses, ça me plaît bien.
Alors, messieurs, premier débat. Strasbourg joue-t-il officiellement l'Europe? Moi, je vous pose la question. Aujourd'hui, on voit sans doute la cinquième, peut-être la sixième place vont être européennes en fonction des matchs du PSG en coupe. Si le PSG gagnait deux coupes, la cinquième et sixième place seront européennes. Strasbourg était pas si loin il y a encore quelques jours. Il y a eu un match naze, en tout cas la deuxième mi-temps à Montpellier. Mais il faut se positionner au bout d'un moment. Le club ne le fait pas, évidemment, ça se fait pas.
C'est à qui de se positionner pas.
C'est pas que les supporters disent qu'ils veulent.
C'est pas les supporters, c'est pas eux qui jouent, c'est pas eux de se positionner.
Oui, mais les supporters sont mesurés ici.
Non, mais d'accord, mais.
On n'arrive pas, tu vois, on comprend. Voilà.
Non, mais ok, mais c'est au club de savoir ce qu'il veut réellement. Et moi, je suis convaincu que cette année, ils le jouent pas vraiment, ils le veulent pas. Et qu'après ce qui s'est passé ces dernières années, que ce soit juste un petit peu plus tranquille, parce que ça a été très agité l'été dernier. Moi, de mon point de vue, je les vois pas déjà d'une atteindre les places européennes et avoir réellement au fond d'eux avoir envie de le faire. Le club est dans une stabilité maintenant, s'installe en Ligue 1, obtient les résultats conformes à son statut. Je trouve que tout va bien et j'ai pas l'impression que cette ambition elle soit au plus profond du club là pour cette année en tout cas.
Alors, tu parles effectivement des dirigeants peut-être qu'ont envie de plutôt prioriser sur la stabilité des prochaines saisons.
Pour l'instant, là, comme ça, je le sens.
Après, moi, j'imagine
une flamme qui veut les pousser à...
Ouais, mais différencions le dirigeant et le joueur et l'entraîneur, qui, à mon avis, eux, ont vraiment tous envie de faire le mieux possible jusqu'à la fin.
Si la Coupe d'Europe, les dirigeants, ils vont pas les suicider, hein.
Exactement.
Ils sont contents.
Exactement.
Non, mais évidemment, et aucun joueur, aucun dirigeant va se flinguer parce qu'il y a bien au contraire. Je te dis,
non, mais quand
même,
ils font pas
même
tout.
Même joueur et entraîneur.
C'est eux qui passent de plus. En ce moment,
j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui anime le club là maintenant. C'est
défendre un peu mieux peut-être.
J'ai l'impression qu'il y a des équipes pour qui ça va être un petit peu plus important et.
Ouais, je suis pas sûr. Dans ceux qui luttent avec Strasbourg là,
Philippe.
Ah bah c'est sûr que l'avenir immédiat, il n'est pas lié à une qualification pour la Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Après nous, l'été dernier, on a vécu un très bel été avec les tours préliminaires de la Coupe d'Europe et on a plutôt envie de revivre ça et de vivre la Coupe d'Europe régulièrement. Donc là aujourd'hui, quand on regarde le classement, on est à 2 points de la 5e place, donc c'est difficile de pas en rêver quoi.
Et voilà.
Après c'est sûr quand on regarde aussi, il y a Lyon et Monaco qui sont en train un petit peu de se réveiller. Comme devant, il y a quand même pas mal de clubs qui sont bien lancés. Les 6-7 premières places sont quand même peu difficile à envisager, donc ça va être compliqué. Après, encore une fois, on est à 2 points de la 5e place, donc aujourd'hui, dans le local des supporters, on y croit forcément et on en a envie. Après, c'est sûr que le club et son avenir n'est pas lié à ça et il n'y aura pas de soucis si on n'est pas qualifié, quoi. Mais on a quand même le droit d'en rêver, en tout cas. Aujourd'hui.
Bien sûr.
Mais ça, si on parle de Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est surtout parce que le championnat est très serré, plus que d'autres saisons auparavant. Aujourd'hui, on a 11 défaites. Dans un championnat un peu mieux hiérarchisé, on serait plutôt aux alentours de la.
Enfin, il y a des années avec 11 défaites, tu descendais. Ouais.
Consécutive, mais.
Consécutive, tout à fait.
Ce que tu es en train de dire, je le reformule, c'est que comme la Liga est un peu pourrie cette année.
J'ai pas dit pourrie, j'ai dit homogène.
Mais... oui, raison de préciser. Oui, ça a été pendant des années l'élément de langage de Fred Thirier quand il dirigeait la Ligue.
C'est ça.
Homogène. Nous, on comprenait pourrie.
La leçon était retenue.
Oui, mais ça veut dire pareil.
En fait, on a un ventre mou de la 5e place, de la 6e place jusqu'à la 13e. Donc, une série de 2-3 victoires, on est en haut. Une série de 3
la Ligue 1, c'est un gros bide bien gras. Oui.
C'est ça.
Ventre mou, là. C'est vraiment. Oui, c'est vrai.
Mais comme disait Philippe, Lyon, Monaco se détachent déjà pour la vraie lutte pour la 5e, 6e place.
Frédéric ?
Bon, l'objectif, on le rappelle, c'était le maintien assuré, tranquille. On a vécu quand même des saisons difficiles par le passé. Après, comme disait Philippe, la Coupe d'Europe, on y a goûté. On a bien envie d'y retourner quand même, mais à un moment donné, on sait quand même à la place qui nous attend un peu et à laquelle on est en droit d'espérer quand même. Après, c'est clair que si on peut avoir une belle surprise, bah pourquoi pas. Mais voilà, après, on va pas se mettre la pression plus que ça. On est un peu presque en électron libre et pourquoi pas y arriver avec ces points-là qui nous manquent encore vraiment pour assurer le maintien et après se faire plaisir sur la fin de saison.
Ça, c'était le discours du club, le maintien.
C'est sur le discours officiel.
C'est une réalité pour le club. C'est un besoin sur plusieurs années de se maintenir et de pérenniser le club.
Surtout cette année, avec l'arrivée des droits télé, quoi.
Qui plus est cette année, effectivement.
Parce qu'un club comme Strasbourg, tu vas, a priori, bon, j'ai pas les calculs en tête très clairs, mais tu vas gagner.
La moitié de ton budget en plus, quoi.
J'allais dire 20%, moi. Tu dis plus.
Non, plus que ça. Plus que ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le club est à peu près un peu plus de 40 millions de budget.
Ouais, c'est
on peut estimer qu'on va passer à 60
entre 45-50 je pense même un peu plus moi.
Un demi Fofana sinon
voilà.
Tu raisonnes au Fofana.
On peut calculer comme
14
ça.
Millions, c'est un Fofana.
On a l'impression que c'est un petit peu le pari de Marc Keller, c'est-à-dire se stabiliser financièrement avec la vente de Fofana à Monaco et espérer peut-être une bonne place. Et si elle n'arrive pas, ben on a quand même l'argent derrière. Faut pas oublier tous les travaux qui vont arriver dans les prochaines années au niveau du stade et du centre de formation qui vont forcément impacter les finances du club. Et je pense que Marc Keller, dans sa gestion saine qu'il a fait depuis quelques années, forcément il a mis ça en place et on voit que c'est structuré quand même.
Mais il a plutôt budgétisé au pire en plus. Voilà,
ouais,
sur un maintien à la 17e place, voilà, etc., etc. Donc tout ce qui vient en plus, c'est du bonus.
Vous êtes attentif aux résultats économiques du club ?
Non, pas forcément, mais on est quand même content que quand on passe la DNCG, on a presque envie d'y aller avec les lunettes de soleil, ouais, tranquille, et on sait qu'on y ressortira.
C'est le cas pour Strasbourg depuis quelques années.
Le passé du club, vous
Pierre s'en souvient, c'était terrible.
À l'époque, quand on y allait, c'était un feuilleton.
Oui. Bah, ouais, voilà. Enfin, moi, je suis parti juste avant, mais.
Très bien que Strasbourg, le jour où on passe à la DNCG, ça durait toute la journée.
Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que le passé du club peut vous donner aussi envie de s'intéresser fortement, ou en tout cas d'être content qu'aujourd'hui le club soit sain financièrement. Parce que sinon, vous seriez un peu stressé.
Il y a des supporters qui en ont rien à secouer du financier, qui veulent juste des victoires, et qui s'occupent
pas de savoir. Oui, en premier, bien sûr.
Tu peux difficilement en avoir rien à secouer. Si tu sais qu'à la DNCG, tu risques une sanction qui va faire rétrograder le club, tu ne peux pas ne rien avoir à secouer. Tu dois savoir également aujourd'hui, quand tu es supporter, comment se porte le club.
Donc on a déjà donné, donc c'est pour ça qu'on s'intéresse un peu.
En plus, oui, s'il y a un club qui a morflé.
Et puis on a envie de garder les jeunes joueurs aussi, et pas être dans l'obligation, comme on avait il y a quelques années en arrière, de les vendre à chaque fois. Alors là, Fofana est parti, mais voilà, on a quand même des super jeunes derrière qui arrivent. On pense à Simakan ou Cassie. On n'a pas non plus qu'à chaque été, on les voit partir et qu'on soit se déplumer.
Ouais, mais ça, c'est un peu le destin d'un club comme Strasbourg, malheureusement.
Malheureusement encore.
Mais si demain, il y a quelqu'un qui vient, qui met 20 millions sur la table, je pense que ça dure 5 minutes, Pierre, la discussion, non?
Ah oui,
5
minutes parce non, qu'il faut 30 secondes pour signer et le reste pour que quelqu'un.
Non, mais ce que veut dire Frédéric, c'est que tu peux peut-être choisir sur les 2-3 meilleurs jeunes que tu as, celui que tu vas laisser partir et les deux que tu vas conserver encore un an.
Voilà, si t'en vends un bien, tu peux te dire voilà, je garde
ça. Ça, c'est la version très positive de la gestion. Tu as raison. C'est de dire que de toute façon, tu ne peux pas faire autrement que de vendre le mec, mais que tu dois avoir anticipé la vente du joueur en question pour qu'il soit remplacé. Alors que trop souvent dans nos clubs, on vend immédiatement, mais on ne sait même pas qui peut éventuellement remplacer.
Ouais. Là, il y a quelques valeurs marchandes entre Simakan, Cassie, Sissoko, Ajorque. Ajorque qui a pris de la valeur.
Ou Matsels.
Ajorque qui vend où en Allemagne?
Ajorque.
C'est un profil qui plaît aujourd'hui. Mmh. Ouais, carrément.
Très rare comme profil.
Ouais, voilà, c'est un profil atypique, mais qui plaît de plus en plus. Donc si il y aura des preneurs.
À l'OM, ils cherchent un attaquant.
Bah, Marseille s'était renseigné l'été dernier, avant de prendre Benedetto.
Vu l'oseille qu'a l'OM, ça reste de toute façon un attaquant
accessible.
Ouais, exactement, au niveau financier.
Je reviens sur le sportif là, les gars. On parle souvent du jeu, du Racing, de Thierry Loret. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes totalement séduit ou des fois vous dites la mise en place, la fluidité, enfin je sais pas, la production. Quel est votre avis général, Philippe?
Sur Thierry Loret?
Thierry Loret et le jeu déployé?
Moi honnêtement, je suis pas très attaché au jeu. Moi, je suis plutôt satisfait de la façon dont il gère l'équipe aujourd'hui. Enfin, je veux pas dire trop de bien de Thierry Loret parce que ça pourrait attirer. Comme il n'a pas forcément une très bonne image, du coup on est plutôt tranquille, personne ne veut nous le piquer, donc
c'est une stratégie.
Faut pas en dire trop.
Moi, je suis pas si sûr que ça qu'il ait une mauvaise image.
Je sais pas, a priori.
Je sais pas.
En tout cas, Strasbourg, il a une très bonne image, ça c'est sûr que nous, il y a des discussions qui ont été ouvertes pour prolonger son contrat, donc nous on espère qu'il va rester.
Oui, parce qu'alors il faut dire qu'il est en fin de contrat au terme de cette saison. Oui. Et je sais pas si la question se posera au club. Est-ce qu'on continue avec lui? Est-ce que maintenant que le club est stabilisé, on peut aussi considérer que quand tu fais un bout de chemin avec quelqu'un et que tout s'est super bien passé, tu peux essayer de voir autre chose. Je ne sais pas du tout si le club, vous avez le directeur sportif non officiel qui est là, donc peut-être lui lancer peu plus parce qu'il a vu le patron aujourd'hui.
Il sait tout.
Mais
le patron lâche rien.
On pourrait comprendre que les dirigeants se disent, est-ce qu'on pourrait pas tenter autre chose?
Oui, les cycles du foot.
Les cycles, simplement. Ça fait combien de temps maintenant?
5 ans? 4 ans.
On a changé tellement souvent d'entraîneur dans l'histoire du Racing que essayer de construire une histoire avec un entraîneur sur le très long terme, ça nous ferait plutôt du bien, je pense.
Il y a les questions de prolongation,
Maxime.
Les questions de prolongation, et comme disait Philippe, le règne de 4 ans de Thierry Loret, c'est déjà inédit pour le Racing. Aucun entraîneur n'a fait une période aussi longue.
Vous, si le président choisit, comme le suggère Daniel, de prendre une autre orientation pour peut-être faire évoluer les choses, vous le prendriez mal? Ce serait mal
non, vécu. Pas forcément. Ça dépend qui vient derrière.
Oui, ça dépend qui vient. C'est sûr qu'après quelqu'un qui a marqué le club, parce qu'il a marqué le club, il a apporté la remontée, un trophée, il s'est passé des choses pratiquement que du positif avec lui. Depuis qu'il est là, oui, il faudrait que ce soit
un projet vraiment ambitieux derrière.
Que ce soit très séduisant. Quoi,
si, on nous fait venir un René Girard ou un entraîneur de ce type-là,
on le prendrait mal. Je ne pense pas que Keller fasse un truc pareil. Quoi. Oui, j'imagine qu'il vous faut forcément quelqu'un qui...
Si derrière, on prend...
Mais surtout, est-ce que tu te souviens que le premier match de Djorkaeff à la Méno, qui c'est qu'il est au marquage? Strasbourg-Nîmes, René Girard. Il le pourchassait partout autour du terrain pour le fracasser. Je m'en souviens, j'y étais.
C'est le style René Girard à l'époque.
Bon, après, bon, c'était son rôle, il était défenseur central. Bon,
et bref. Si jamais le profil souhaité par votre directeur sportif non officiel était envisagé, ça vous plairait ou pas, un ancien du club?
Lui, il est sur Valérien Ismaël, donc forcément, c'est intéressant, puisqu'il y a quand même des résultats en
Autriche. Vous avez vu ce qu'il fait là? C'est pas mal, hein?
Moi, je dis ça, Ismaël.
Conseiller du directeur sportif. Leader du championnat. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Fred? Leader du championnat.
Directeur sportif, t'es officiel. Moi, j'écoute ce qu'il dit.
Non, je te dis peut-être pas tout de suite, mais à terme, dans quelques années, c'est un gars d'ici.
On a été tellement déçus à des moments donnés quand on a changé d'entraîneur. Et là, on sent, en fait, les gens, ils ont envie qu'il y ait une progression encore supérieure, etc. Quand on voit Thierry Loret, il nous a ramené il y a 4 ans, enfin voilà, de Ligue 2 à Ligue 1. Il nous a stabilisé, il nous a maintenu la première saison, il nous a fait gagner une coupe. On est revenu en Coupe d'Europe. Là, on jouait entre 5 et 10e place. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? La crainte, quand même, c'est d'avoir un nouvel entraîneur qui arrive et d'avoir un trou derrière, parce qu'il va falloir du temps pour que ça se mette en place et rejouer peut-être le maintien. Alors que là, on sent quand même que la progression au fil des saisons, elle est en train de monter tout doucement et ça se stabilise toujours.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour changer d'entraîneur, il faut attendre que ça termine comme ça arrive très souvent dans les clubs, c'est-à-dire en eau de boudin, où on constate la fin de slick sur une saison où tu te sauves par miracle, ou voir que ça tombe en catastrophe, conflit entre les joueurs et l'entraîneur, et où ça met en danger le club. Est-ce que finalement, c'est pas mieux de savoir se séparer au terme d'une belle histoire?
Ah ben clairement,
c'est une question que je pose parce que
ça serait joli pour Strasbourg en tout cas.
Si j'étais dirigeant de Strasbourg.
C'est pas facile. Hein.
C'est pas facile. C'est des situations qui sont pas simples. Mais souvent, les séparations, si on aborde ce sujet, c'est parce qu'il y a la fin de contrat. Hein, sinon, on n'en parle pas. Mais souvent, c'est ça. C'est
non, très, très souvent, la plupart du temps, la séparation, c'est pas en fin de contrat. C'est avant parce que ça se passe mal.
Exactement. Oui. Donc,
c'est rare qu'un entraîneur aille justement à la fin de son contrat et que tu dois te poser la question.
Est-ce qu'on continue ou pas? Parce que s'il y a prolongation, est-ce qu'il faut attendre pour une éventuelle séparation que ça se termine en saison cata, où t'as des conflits internes et où finalement la saison se termine avec un Racing 17e, 18e à flipper toute l'année, voire pire? C'est ça, c'est comment on se sépare.
Mais j'avoue que
si j'étais dirigeant, je sais pas.
Si tu le prolonges, tu le prolonges à mon avis pas dans l'objectif d'attendre la saison où ça va mal se passer. Tu te dis on le prolonge 2 ans et peut-être que dans les 2 ans effectivement la progression va continuer à être linéaire, qu'on va s'installer dans les aller entre la 4e et la 8e place pendant encore 2 ans.
Temps, tu sais bien que quand ça se termine, c'est au terme d'un processus qui termine mal. Donc est-ce que tu peux pas envisager que ça se fasse au moment où
c'est pas facile parce que sur le plan populaire, on le voit bien là. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord avec ce qui a été dit. Donc ça veut dire que tu prends une décision ou un risque dans ta décision qui serait difficilement accepté si ça se passe mal.
Une grosse interrogation aussi, c'est de savoir est-ce que Thierry Loret est courtisé ailleurs? Ça, personne ne le sait vraiment.
Et ça, à la limite, t'as pas besoin de savoir s'il est courtisé?
Je suis pas sûr que tu dois réfléchir
L'histoire a été magnifique et que tu veux y mettre un
Je pense qu'il l'est par ailleurs. Il y a des grandes chances.
Tu te fous de savoir s'il doit aller ailleurs. Après tout, toi, tu décides de dire au revoir et merci beaucoup, monsieur. Parce que ça, c'est un problème qui se pose dans plein de clubs, même des clubs plus grands que Strasbourg. Ce qui s'est passé, je sais pas, par exemple, l'année dernière à la Juve, où on a décidé, Allegri, il avait gagné 7 titres de suite.
Pour service rendu, quoi.
Ouais, et tu dis, c'est génial, mais on a envie de passer à autre chose. Alors après, les ambitions sont pas tout le temps les mêmes. Eux là-bas, c'était le titre, c'est bien, mais il faut un peu de Ligue des Champions. Et comme ils s'étaient fait sortir un petit peu plus tôt, c'est un petit peu là-dessus que ça s'est noué. Mais néanmoins, on a fait partir. Il y a pas mal d'équipes qui font partir, même des coachs champions. Capello s'est fait virer champion. Arthur Georges au PSG a été viré alors qu'il était champion. Ça arrive de se séparer pour entamer autre chose. C'est pour ça que je pose la question.
On a quand même un exemple assez simple. Au mois d'octobre, on était dernier. On était dernier de championnat.
Oui, ça, après la Coupe d'Europe, ça s'est mal goupillé, probablement.
Et on va pas se mentir, à ce moment-là, on s'est un petit peu posé la question de savoir si on n'était pas dans une saison galère, une spirale négative qui allait nous amener à l'irrigation. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour remobiliser un petit peu le club. Mais à ce moment-là, il y avait quand même eu, je dirais, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait maintenir l'entraîneur et qu'il fallait qu'il y ait de la solidarité. On a même fait un communiqué à ce moment-là pour dire que chacun devait faire un effort, les supporters, le staff, les joueurs, les dirigeants, et que tout le monde, tous ensemble, on arrivait à s'en sortir. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment une volonté commune de soutenir le Racing et de soutenir Thierry Loret et de pas se dire on va changer d'entraîneur, on va demander à Marc Keller de changer d'entraîneur. Donc À partir du moment où tout le monde est sur la même longueur d'onde et qu'il y a une mobilisation positive pour se sortir d'une situation difficile, je ne veux pas dire que ça garantit évidemment qu'on s'en sorte, mais ça facilite quand même pas mal des choses. Quoi. Donc,
et il a prouvé qu'il avait des ressources en plus encore derrière, parce qu'il a quand même changé un peu son schéma de jeu, il a ressorti des joueurs, etc. Et...
Bah lui, il était serein, hein. Il a dit, fin octobre, il a dit c'est pas grave, on va s'en sortir. Hein. Donc il avait un discours tout à fait positif.
Il y a un truc qui est en tout cas bien fait chez lui, c'est qu'il tient son effectif. Les mecs, il les tient. Si ça part un peu dans les moments délicats, dans tous les sens, comme dans beaucoup de clubs.
Par exemple, Djikou récemment.
Voilà, lui, il tient. Lui, ça, de ce côté-là, il est exigeant au niveau discipline. Il
les gars, les on continue le débat dans quelques instants, mais il y a eu un but entre le Paris FC Lens, Lucas.
Avant la mi-temps.
Oui, en effet, pas de 0-0, en tout cas, ce soir, à la 37e minute de jeu. C'est Florian Sotoka qui a ouvert le score sur un centre de Banza à mi-hauteur. Vincent de Marconnet est un petit peu court. Il n'a plus qu'à reprendre du pied gauche dans le but vide. Et sur ce qu'on voit depuis le début de cette partie, c'est franchement mérité pour les Lensois qui mettent plus de vitesse dans le jeu, qui sont plus justes techniquement. 1-0, donc 41 minutes de jeu à Charletti.
Dans quelques instants, on est de retour ici à Strasbourg pour continuer le débat, parler de l'identité du club qui s'est reconstruit de façon exemplaire en quelques années, bien sûr, avec vous au 32-16 et ici, en direct du local de la Fédération des supporters. À tout de suite, ici en direct de Strasbourg, dans l'After.
RMC, l'After Foot en direct de Strasbourg, Gilles Darbrivois.
Et oui, en direct de Strasbourg, en direct de la Fédération des supporters avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, Julien Cazard qui est là également avec vous tous. On a Philippe qui est le président de la Fédé, on a Maxime de Racing Stub, on a Fred de Planète Racing. D'ailleurs, décris-nous un peu la Fédération, hein. Quel est l'objectif?
Alors la Fédé, ben, comme son nom l'indique, c'est un rassemblement qui a la vocation de rassembler tous les supporters du Racing. Donc, d'un côté, il y a les associations traditionnelles qui font partie de la Fédé, les Entreprises 90, le COP Ciel et Blanc, les Grizzlies, ABC et la Paris Serre Section, donc les Parisiens supporters du Racing à Paris. Donc ça, c'est le côté association traditionnelle. Et puis d'un autre côté, il y a les supporters qui font pas partie d'une association, mais qui prennent leur carte directement à la Fédé. Et donc, ça fait à peu près 3000 personnes en tout. Et donc, nous, à la Fédé, ben, on est chargé de mettre en place des projets, de porter des dossiers qui intéressent et qui concernent tous les supporters du Racing.
Ça se passe bien avec le club? Les rapports sont bons?
Ça se passe très bien. On parlera tout à l'heure avec Arnaud, qui fait un petit peu le lien. Et ben, ça fait plusieurs années que le dialogue est constructif. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais en tout cas, on peut toujours discuter de tout. Et du coup, ça permet d'avancer.
Et le local ici, il est ouvert à tout le monde? C'est-à-dire que là.
Il est ouvert à tous les supporters du Racing. Il est ouvert à chaque match, à domicile et à l'extérieur. Il est aussi ouvert régulièrement pour différents événements comme ce soir. On a déjà fait venir tous les joueurs. Thierry Loret est déjà venu plusieurs fois, Marc Heller aussi. Donc c'est vraiment le lieu de vie des supporters du Racing.
Est-ce qu'un supporter messin est bien accueilli ici?
un messin supporter du Racing est bien vu.
Y a-t-il un messin dans la salle?
Ah.
Ah, bravo! Beaucoup, c'est courageux!
Non, il est supporter du Racing, il a dit.
Et de Metz, mais c'est pas possible ça.
Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ça s'appelle un footix, monsieur.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Un beau chien. Ah bon?
Ah bon?
Ah, faudra venir nous l'expliquer tout à l'heure. Alors,
les deux ne sont pas incompatibles, j'ai du mal à comprendre.
Cela dit, Maxime, le derby historique, c'est Strasbourg-Mulhouse, c'est pas Strasbourg-Metz.
Oui, le derby historique, c'est ça. Après,
ça arrive souvent, ça.
La rivalité avec Sochaux, mais Metz, c'est plus récent, effectivement.
Strasbourg-Mulhouse.
Et le derby de Metz, c'est avec Nancy.
Le derby de Metz, c'est Nancy. Bah, c'est un truc, ça m'a toujours un peu étonné. Enfin, je.
Oui, c'est Metz-Nancy. En fait, oui.
C'est parce qu'on en a pas d'autres.
En France, qu'on s'invente des derbies à la con comme ça.
Alors, je suis très fier.
Le derby de l'Atlantique, de la Garonne.
Il est là. Comment tu t'appelles?
Ça veut rien.
Benjamin. Alors, explique tout ton concept.
Messin de cœur, de naissance.
Ah, ok.
On va pas trop loin.
Et Strasbourgeois d'adoption et fervent supporter du Racing également.
Je suis
fier de dire que les deux ne sont pas compatibles, surtout après les épisodes vus hier à Lyon entre Saint-Etienne et Lyon qui sont assez déplorables. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de haine.
Finalement, Metz n'a pas choisi, Strasbourg, tu l'as choisi.
J'ai choisi les deux. Et c'est vrai que le vrai derby pour les supporters messins, c'est avec Nancy.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est la vraie rivalité régionale. Bon. Alors quand Strasbourg se profile en Ligue 1, évidemment, il y a une rivalité, mais moins importante que celle de Nancy.
Bon, de toute façon, Strasbourg est au-dessus, on ne va pas se mentir.
Cette saison, Strasbourg est au-dessus. Mais Metz, je trouve que Metz revient bien.
Est-ce qu'on pourrait trancher définitivement cette histoire au niveau palmarès et histoire? Qui est devant, Gilbert?
Bah, regarde le palmarès de Metz. Ils ont gagné quoi, Metz?
Deux Coupes de France.
Voilà.
Trois pour Strasbourg.
Strasbourg combien?
Bah, dis-moi.
Trois. Combien de championnats, Metz?
Vice-champion 99.
Ah, vice-champion, excuse-moi, c'est pas un titre.
Vice, c'est pas un titre.
Voilà, je sais.
C'est pour bricoler, si tu veux, des vis, mais.
Strasbourg, champion. Une fois. Voilà, débat clos, merci, au revoir.
D'accord. Ben non, mais je voulais savoir, c'est tout. Moi, je veux qu'on m'explique, quoi.
C'est mathématique.
Ah ben non, je voulais savoir.
Dire que l'after tour à Metz, tu diras l'inverse. J'ai
à vrai dire, c'est terrible. C'est bizarre, les Messins nous ont pas invités, dis donc.
Ouais, c'est vrai.
Après,
ils te connaissent.
Je sais pas.
Mais est-ce qu'à Metz, c'est aussi un autre mystère à élucider. Ici, on est. Comment on fait pour la radio? Elle marche pas. Il y a pas RMC.
Il y a pas de fréquence RMC à Strasbourg. Il y en a une à Mulhouse.
Jusqu'où en fait? À Mulhouse, oui.
À
pas
Mulhouse,
ici.
Il y en a une qui va arriver jusqu'à Colmar à peu près.
Jusqu'à Ensisheim.
Donc
pas Colmar.
Ensisheim pour être précis, voilà.
Et à Metz.
À Metz, il y a une fréquence à Nancy qui couvre Metz. Donc,
d'accord.
À Metz, on a RMC à Metz.
Pourquoi Strasbourg est comme ça isolé?
Alors, je vais t'expliquer pourquoi. On m'a posé plein de fois la question. En fait, dans les zones frontalières, la bande FM est occupée par les radios du pays d'à côté. Donc, ici, t'as plein de radios allemandes. Et tu peux pas les virer, les radios allemandes de la bande FM. Tu peux pas leur dire, vous arrêtez d'émettre, puisqu'ils émettent aussi pour leur côté. Et d'accord. Eux, de leur côté, ils ont aussi des radios françaises qui veulent pas, peut-être. Tu comprends?
Mais c'est quand même un peu mal foutu.
Normalement, ça s'arrête à la frontière, mais ça s'arrête jamais. Mais de toute façon, comme tous les gens ici écoutent RMC en digital sur les applis, sur rmc.fr, avec une meilleure qualité d'écoute en plus que sur la FM, c'est l'avenir. Donc dans quelques années, tu auras plus de la FM.
Au local, il y aura 3 personnes, comme on n'est pas écouté ici, comme il n'y a pas la radio ici. J'étais étonné, moi, je pensais que ça ne marchait pas.
C'était l'occasion, tu vois, de mettre en avant les écoutes digitales. C'est la mi-temps à Charletti entre le Paris FC et Lens, avant qu'on continue notre débat ici à Strasbourg. Lucas.
En effet, le score n'a pas bougé. 1-0 en faveur de Lens, but de Sotoka. À la 37e, les Parisiens qui n'ont vraiment pas montré grand chose dans cette première période, à l'inverse des Lensois qui se sont mis à fond dès le début, dès le coup d'envoi de cette rencontre.
Bon, et je remercie Benjamin qui a eu donc ce courage de venir s'exprimer, de venir exprimer son goût pour le FC Metz. Parlons un peu de l'identité du club, parce que c'est marrant, hier on parlait de Bordeaux, de Daniel, Pierre, stade vide, les joueurs qui se reconnaissent plus dans le club, changement de propriétaire, voilà, ils comprennent pas les méthodes des Américains.
Les joueurs et surtout les supporters.
Ça marche pas. Oui, je parle des tribunes, là, je parle de l'identification au club, là, plus
non, les joueurs qui se reconnaissent plus dans le.
Non, je parlais des supporters, pardon, ouais. C'est une erreur, je cite les supporters. Ouais. En fait, on a un peu l'opposé ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a une identification qui est très forte. Alors que c'était pas si évident il y a quelques années. À l'époque de Pierre, le stade n'était pas plein tout le temps. Hein. Et aux époques précédentes aussi, c'était pas tout le temps plein comme ça l'est maintenant. Alors comment est-ce
pas autant, c'est vrai.
Comment est-ce que vous, qui êtes là au quotidien et à tous les matchs, vous expliquez que ce soit reparti comme ça aussi fort et que ça fonctionne?
Il faut remonter à 2011. 2011, c'est le dépôt de bilan. Et à ce moment-là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de joueurs, il n'y avait plus de dirigeants, il n'y avait plus d'argent. Et les seules choses qui nous restaient, il y avait trois choses qui restaient. Il restait la passion, il restait un stade, et il restait le logo, les couleurs. Donc un sentiment, un lieu et des couleurs, quoi. C'est tout ce qui nous restait. Donc finalement, tout est reparti de là. Parce que c'est vraiment le cœur de l'identité du Racing. Bah, c'est évidemment un lieu, parce que c'est là où on se retrouve. C'est la passion, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et puis c'est les couleurs, parce que c'est ce qui nous relie. Donc en 2011, il restait que ça. Et c'est à partir de ça que le Racing est reparti, en fait. Donc aujourd'hui, c'est sûr que l'identité du Racing, elle repose sur ça. Et elle a...
Mais est-ce que c'est parti plus fort parce qu'il y a eu la, on va appeler ça la misère, la galère, parce que dans les années où on parlait Pierre tout à l'heure et où moi je venais commenter, même l'année où vous jouez pour la remontée, je suis pas venu que cette année-là, mais celle d'avant, il y avait du monde, mais c'était la moitié, c'était un trois quarts de stade, une moitié de stade, et après on a vu que après la galère, c'était plein tout le temps, même dans les divisions très inférieures. Donc,
ouais, parce que t'es revenu à l'essence même de ce qu'est le supporterisme pour un club.
Néanmoins, il fallait trouver les gens. T'inventes pas les gens.
Ça avait un côté un peu chevaleresque. Le Racing était dans la tempête, tout allait mal, et du coup, nous, on était là pour soutenir le club. Ça avait un côté un petit peu, voilà, on était présents.
Et tu veux dire qu'un noyau dur a fait venir d'autres gens?
Et il y a un
qui avait arrêté de venir ou qui sont venus à cette occasion-là?
Alors, qui se sont agrégés au noyau qui est resté.
Et il y a eu un acte fondateur, que tout le monde connaît ici, mais c'est les supporters qui, à un moment, sont allés s'occuper du stade. Je veux dire, concrètement, nettoyer les travées pour la reprise du championnat. C'est-à-dire qu'on en était là quand même. Donc quand tu as la possibilité de prendre en main comme ça quelque part l'avenir de ton club, parce que c'est ce que vous avez fait à l'époque, voilà, ça compte encore aujourd'hui.
Bah oui, parce que la méno était abandonnée, il n'y avait plus de nettoyage tout simplement, et donc la veille du premier match de CFA2, comme il y avait quand même pas mal de milliers de personnes qui étaient prévues et qu'on voulait pas que les gens arrivent dans un stade dégueulasse, donc on a pris effectivement des balais et de quoi nettoyer le stade, mais on l'a fait avec plaisir, en fait on l'a fait parce que on savait que le club était en train de partir.
À ce moment-là, vous êtes combien?
On était à faire ça
à faire ça pour accueillir combien de personnes ensuite?
C'était 10 000 personnes le premier 10 000 match.
Personnes, ouais. 10 000 personnes.
10 000, alors que 10 000, c'était FA2. Peut-être même c'est pas FA2, ce qu'il hein. dans le stade au moment de la Ligue 2 avant 2010.
Mais en fait,
C'est ce basculement qui est intéressant à comprendre. Comment d'un coup vous avez pu vous retrouver 10 000 alors que c'était pas évident qu'il y en ait 10 000 alors que le club était en Ligue 2?
Parce que déjà, le Racing, c'est le seul club de foot vraiment en Alsace. On parlait de Mulhouse, mais bon, il y a moins d'intérêt quand même pour Mulhouse. Le club de foot, quand on aime le foot en Alsace, on suit le Racing. Bon, à l'époque, on n'y allait pas forcément, on suivait un peu les résultats, mais il n'y avait pas cet acte d'aller au stade. Et c'est vrai que le dépôt de bilan, ça fait prendre conscience aux gens que finalement, on pouvait perdre quelque chose que tous les Alsaciens connaissent. Et ça a renforcé un peu la passion, ça a ravivé un peu la flamme. Et les gens derrière, progressivement, ont vu que ça repartait et ont voulu faire partie de ce projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Racing est presque plus populaire.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire et qui n'est pas toujours facile à dire, mais moi je pense qu'il faut assumer ça. Et je pose des questions, en fait, je connais un peu l'histoire de votre club, parce que quand je venais, je rencontrais même des Léonard Spetsch, des gens comme ça. Est-ce qu'on peut dire que ça plaît aux Alsaciens, que le Racing soit aux Alsaciens? Voilà. Parce qu'en France, on a toujours du mal à dire ce genre de choses-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de clubs qui soient capables en France de revendiquer un ancrage local et qui veulent et qui pourraient affirmer nous, le Racing, c'est l'Alsace aux Alsaciens.
Pas forcément, parce qu'en fait, c'est vrai qu'historiquement, on a toujours eu des dirigeants alsaciens, mais c'était avant la mondialisation un peu du foot. Et le problème, c'est qu'on a eu trois dirigeants qui n'étaient pas alsaciens. Donc on a eu Echter, Proisy et Ilali. Et à chaque fois, c'était des bides.
Eh ben donc voilà. Donc tu réponds à ma question. Est-ce que dans l'histoire, nouvelle qui a été racontée et qui plaît tant aux gens, est-ce que cette idée que moi on me disait, nous on reviendra au stade, nous on voudra que nous quand le Racing sera de retour par les
fans d'Alsaciens.
J'ai l'impression que oui.
Comme disait Maxime, en fait, quand vous sentez que quelque chose va disparaître, vous vous raccrochez fortement à ça. Et comme disait Philippe aussi, c'est vrai qu'on l'a senti ce Racing à un moment donné nous fuir. Et on s'est dit, mince, si on fait pas quelque chose ce jour-là, maintenant, le club va disparaître. Nous, on a lancé notre émission un peu à ce moment-là aussi. Et on sentait la disparition du club. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir finalement? Il va nous manquer quelque chose dans notre vie, tout simplement. Et c'est là où il y a une mobilisation forte. On parlait des 10 000, effectivement, contre l'Azim, les premiers matchs. Et après, pour réagir un peu à ce que tu disais aussi, qu'est-ce qu'on a de différent? Moi, j'ai un mot vraiment qui me reste en fait de toutes ces années-là, c'est l'insouciance. On a l'insouciance d'un enfant de 10 ans qui fait qu'on profite de chaque instant, de chaque nouveauté. On parlait avant de Julien Cazard, du match qu'on a gagné contre le PSG il y a quelques années. Mais c'était énorme pour nous. C'était pas la même galaxie. C'était le PSG champion avec des stars. Nous, on revenait de nulle part. Et c'est ce qui fait encore qu'on a cet ADN-là et qui fait qu'on a. Et qu'on vit pleinement les bonheurs.
Mais vous ne voulez pas assumer l'idée que vous êtes content que ce soit Keller qui dirige parce là-dessus. Que c'est un gars d'ici, parce que ce sont des Strasbourgeois.
Alors Philippe peut te répondre là-dessus.
Quand Ginesté a vendu le club en 2009 ou 2010 pardon à des investisseurs qui étaient basés à Londres, on était contents. On était contents parce qu'on se disait, c'est des gens de l'extérieur qui arrivent, ils vont amener une nouvelle dynamique et ça va un petit peu changer. Le problème, c'est que c'était des gens malhonnêtes et donc c'est la malhonnêteté qui les a enfoncés dans la crise, quoi. Donc nous, s'il y a des dirigeants alsaciens, on est content. Mais nous, on veut juste des gens honnêtes et qui travaillent dans l'intérêt du club. Qu'ils soient alsaciens ou pas, c'est pas ça le plus important. En l'occurrence, Markel est alsacien, donc c'est un plus. Mais c'est pas une priorité.
Et si demain, il y a un repreneur, je sais pas, un breton, un allemand, un danois, je ne sais pas, qui vient avec un vrai projet, avec...
les bretons, c'est compliqué quand même.
Oh là, la France nous sépare entre l'Alsace et la Bretagne.
Demande à Jérôme Thomas, tu vas voir ce qu'il te dira.
Non, mais c'est pas forcément la nationalité ou l'origine du président, c'est le projet. C'est vrai, ce que je disais, les trois présidents qu'on a eus qui n'étaient pas alsaciens, bah, il se trouve qu'ils n'étaient pas compétents et parfois malhonnêtes, comme disait Philippe. Si on peut très bien aussi avoir une fois un repreneur alsacien qui est incompétent et il ne sera pas aimé. Alors qu'à contrario, si on a...
Et dans les bonnes aujourd'hui, la cote de Markel, elle est au firmament quand même.
Oui. C'est
dans les bonnes périodes de Strasbourg, qui dirigeait les clubs?
Bah, c'était des alsaciens. Mais...
C'est bizarre. Hein.
En 79, le président n'était pas alsacien.
C'est vrai. Léopold.
Léopold, c'était pas un Alsacien. Si, c'est un Alsacien. Non, c'était pas l'Alsacien, hein, c'est ça.
Et non, la structure du club, les dirigeants, ceux qui étaient dedans quand même.
Oui, mais c'était avant la mondialisation du foot aussi. Ouais. Hein. C'est sûr que dans les années.
Mais est-ce que forcément ça fait du bien d'avoir. J'en sais rien.
Allez, voilà, on va passer à la suite.
Je regardais juste tout à l'heure dans l'actu, je vois Boban va se faire virer du Milan par le président Lagazidis, qui était à Arsenal l'année dernière, qui est un homme d'affaires sud-africain, si je me trompe pas. Bah, pour un club comme Milan, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que la mondialisation, c'est ça donc.
C'est ça
le mal qui est en train de tomber, un des plus grands clubs européens.
On est
en train de dégringoler mois après mois. Il y a une nouvelle
catastrophe. Milan est le parfait exemple, Daniel, tu le sais.
Bah, d'ailleurs, et je rappelle que, je l'ai dit, le premier club français à avoir été détenu par les Américains, c'est Strasbourg. Hein. McCormack, ça s'est fini en fiasco total.
Ouais, c'est vrai.
Les autres n'ont pas tiré les leçons de tout ça.
Si je peux rajouter un petit truc, c'est je pense que ce qui s'est passé en 2011 a permis aussi de faire un gros coup de ménage et de repartir uniquement avec le noyau dur et donc de repartir sur des bases plus saines. Que ce soit pour vous en tribune ou que ce soit sur le structurellement pour le club aussi.
Oui.
Et c'est ce qui a été salvateur, je pense, pour le Racing. Sinon, ça aurait peut-être pu continuer comme ça à BGC.
Parce que t'as le sentiment que le gars, il est d'ici, il est ancré dans la culture locale. Oh, peut-être il peut mal bosser. Mais en tout cas, il fera le maximum pour bien bosser.
Avant quelle heure, entre.
Maxime, on va faire une pause. Toi, j'arrive à te couper. Les deux autres, j'arrive plus. Donc, je me permets. Dans quelques instants, on revient. On finira le débat ensemble. Ensuite, on parlera avec Arnaud du rôle de référent supporter. On parlera de Lyon, les drôles de dames, bien sûr, comme tous les lundis. On est là jusqu'à minuit en direct de Strasbourg. On se retrouve tout de suite.
RMC, l'after foot en direct de Strasbourg. Gilles Darbribois.
En direct de Strasbourg depuis le local de la Fédération des supporters à côté du stade de la Méno avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec Frédéric de Planète Racing, Maxime de Racing Stouk, Philippe le président de la Fédération. Ici on va finir notre débat rapidement les gars, et puis s'il y a l'un d'entre vous dans le public qui veut réagir aussi, donner son point de vue. Il y a quelques historiques du Racing qui sont là. Je salue mon ami Patrick d'ailleurs. Patrick, auditeur fidèle d'RMC Sport, il a connu le club je pense dans les années 50. 58. Voilà.
Qu'est-ce que faisait Gilbert ce soir? Pourquoi il s'est pas libéré?
Grèce.
Ouais.
Ah ben le pauvre Grèce. Ah,
moi je partais hein, s'il était là.
Ah oui, attends. Tu l'as eu comme coach à la fin.
Jus de pamplemousse et biscottes là.
Et je l'ai vu.
Mais attends, raconte.
Je l'ai vu moi quand il est revenu avec son vieux survêt rouge des années 70 et les lunettes cerclées or.
Tu peux raconter l'anecdote.
Ouais, les mêmes, il a jamais changé hein, finalement. Non mais je plaisante un peu, mais c'est pas exagéré. Ouais, c'est, je sais même pas si vous le savez tous, mais effectivement quand Monsieur Grèce arrive, au bout de 15 jours, on sait qu'on va dans un mur.
Il revient dans quelle année là? Quand tu reviens pour la
2008-2009. Et effectivement, c'est un management tout particulier, quoi. C'est, on veut un libéro 20 mètres en retrait du stopper qui est au marquage de l'attaquant, mais on est quand même encore, on est déjà en 2008-2009, hein. On joue plus comme ça, on joue à plat, depuis 10 ans déjà.
Non, c'est l'année d'avant,
parce que c'est 2009. L'intersaison 2009, oui.
Oui, parce que
non, moi je fais 2007-2009.
2009, c'est là où vous ratez la montée contre Montpellier.
C'est l'été 2009.
Oui, pardon. C'est l'été 2009. L'été oui, pardon. Voilà, parce que je m'en vais cet été-là. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Pardon. 2009-2010.
Oui.
Et donc on part très vite en stage et en stage effectivement le matin on avait biscotte, jus de pamplemousse, café, c'est tout. T'avais pas le droit au pain, au jus d'orange, au chocolat chaud pour les plus jeunes qui ne voulaient pas de café. Ah, je pense que c'était une méthode de management pour dire je décide de tout et c'est comme ça et pas autrement.
Parce que 30 ans avant, il était champion de France comme ça.
Peut-être, voilà, et exactement. T'avais trois séances par jour en stage.
Est-ce que tu te souviens de la
marque? J'ai oublié, Daniel, je sais plus. Mais sûrement Odebert ou Dr. Oetker, je sais pas s'il fait les biscottes.
Les courses en Kawaii aussi.
Alors voilà, les trois entraînements, le matin à 6h30 du matin, quand tu fais l'entraînement physique, il fallait être avec le haut et le bas de survêt, obligé. À 10h, il fallait plus que le haut, plus le bas. T'avais pas le droit. Et l'après-midi, c'était ni le haut ni le bas. C'était comme ça. Sauf qu'on était à Évian, Thonon-les-Bains, là, je sais plus quoi. Et que parfois, le temps était super changeant là-bas, quand t'étais près de la montagne. Et que parfois, t'avais envie l'après-midi de mettre une veste, ou alors le matin, parce qu'il faisait déjà chaud, d'enlever ta veste parce que tu faisais du travail physique. Il y a des séances qui ont été arrêtées à cause de ça. Moi, je me suis pris la tête avec lui parce qu'il voulait pas que j'enlève mon pull quand on courait, pour transpirer comme des bœufs. Non, mais c'est. Il y a eu plein de choses comme ça. Alors, on en rigole aujourd'hui.
Ah, moi, dans cette saison-là, je me souviens, 2-3 interviews bord terrain.
Ah ouais, non, mais tu sentais que t'allais dans le mur, quoi.
C'était la secte des Raéliens, quoi.
Pour vous dire, vous qui les connaissez très très bien.
Je comprenais rien, quoi. C'était.
Et pour vous dire, vous qui les connaissez très très bien, Guillaume Lacour et Steph Cassard, qui sont les deux personnes les plus gentilles au monde, même eux, au bout de 15 jours, pétaient un plomb, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient envie de le.
Ouais, il était particulier, il était resté sur des vieilles méthodes.
Très, très particulier,
ouais. Bah bon, ce gars-là a mis le club champion de France, quand même.
Très bien, bravo.
Oui, avec ses biscottes, là.
Non, mais bravo, j'ai rien à dire là-dessus.
Les époques changent. On fait des choses en 30 ans.
Moi, je sentais qu'on n'allait pas être champion, ce gars-là.
Mais il n'est pas resté longtemps.
Non, ça a duré 3 mois et c'est Pascal Janin qui a repris l'équipe, mais bon. Voilà.
Ouais, je vais donner la parole deux minutes à Patrick.
Ouais, Pierre, peut-être que tu te souviens.
Il y a un dirigeant historique du club. Hein.
Ouais. Maintenant, je suis devenu historique. À l'époque, je l'étais moins. En même temps. Mais une anecdote qui est connue de Gilbert Grèce, quand les joueurs partaient en bus, parce qu'on ne prenait pas l'avion toutes les 3 minutes comme maintenant, quand il y avait le soleil du côté droit du bus, tout le monde passait de l'autre côté à gauche. Et quand le soleil passait à gauche, il fallait revenir à droite du bus. Grosse anecdote.
Allez. Comment
Il n'y avait pas de rideau.
Ah non, il n'y avait pas de rideau. Il fallait des gros amortisseurs pour supporter le choc. Hein, de gauche à droite.
Oui, mais comment tu faisais? Parce qu'il n'y avait pas assez de place d'un côté du bus.
Ah non, il fallait se mettre sur les genoux l'un de l'autre, mais surtout du côté de l'autre.
Il y avait assez de place, que tu voyageais à 20-25, tu avais 50 places dans les bus.
Quand même un génie, le gars.
Ouais, non. Ouais. C'est quoi l'idée? C'est quoi, que le soleil te tape pas dessus?
Bah oui, c'est ouais, ça, ouais, c'est que, ça. Que le soleil te
tu
tape pas dessus.
Tu prends pas un coup de chaud à travers la vitre.
Et que tu sois pas tout mou comme toi tout à l'heure là-bas quand t'avais un coup de mou, tu vois.
Ouais.
Ah, c'est ça, oui. Voilà. Mais pas à cause du soleil tout à l'heure. Toi.
Alors, concluons, les gars. Fred, je crois que tu voulais rajouter un truc sur la gouvernance Keller.
Non, mais c'est vrai que c'est des méthodes qu'on aime bien. On est rassuré, en fait. Et tu parlais de la méthode un peu allemande, un peu la rigueur allemande, et c'est exactement ce qu'on a. On sent qu'il capitalise aussi, qu'il se met à l'abri, qu'il vend, mais de manière juste, qu'il prévoit la suite aussi. Hein. On l'a dit avant, il y a des gros travaux sur la méno qui vont arriver.
Je crois que tu avais dit qu'il prévoit la Suisse. Comme t'as parlé d'argent avant, je t'y raconte.
Peut-être, je sais pas, mais non, mais voilà, on sent que c'est sécurisé, que c'est réfléchi, que c'est posé. Il communique très peu aussi. Il maîtrise sa communication. On voit sur les transferts, on n'en parle pratiquement pas. Et d'un seul coup, on arrive à avoir un Waris en quelques jours qui arrive. Et on aime bien cette méthode-là. Et puis on sent qu'il met de côté pour la suite en cas de coup dur si un jour ça se passe mal.
Ah, l'Alsacien met de côté en cas de coup dur.
Toujours.
Et ça, c'est un peu tout le monde quand même. Hein.
Ouais, mais un peu plus que les autres.
Ah, d'accord.
Il y a certains dirigeants de clubs qui font pas ça, tu le sais très bien.
Oui, c'est vrai.
Donc, ça se passe
pas. Pour eux.
Non, mais il parlait mercato, là. Pierre, comment ça se passe pour négocier avec Strasbourg? C'est facile ou c'est compliqué?
Non, c'est très facile parce que c'est très clair, en fait. Déjà, t'as des personnes avant Marc qui travaillent sur le plan.
Ah là, tu parles à l'agent, Pierre.
Pierre est aussi agent.
Non, c'est aussi
notamment.
Ouais. Ouais, voilà. Je pensais que tu lui demandais à son époque de joueur quel rapport. Non.
C'est important aussi parce que ce sont des gens qui travaillent un peu avec les mêmes valeurs et la même méthode de fonctionnement. Ça marcherait pas sinon. Marc serait pas d'accord, je pense. Mais voilà, Loïc Désiré qui travaille au recrutement, c'est assez chirurgical. Il sait
ce que. C'est un gars essentiel au fonctionnement aujourd'hui.
Exactement. Mais c'est vu de manière collégiale. Avec un coach et avec un président et avec un responsable du recrutement, ce qui fait que toi tu perds pas ton temps en tant qu'agent. Quand un joueur est vraiment désiré, tu sais que c'est pas de jeu de mots avec le nom de Loïc, mais est vraiment voulu, tu sais que c'est parce qu'il y a un coach derrière qui est d'accord et parce qu'il y a un président qui est d'accord aussi. Donc c'est assez clair. Après, je te dis pas que c'est facile parce que ce sont des gens qui savent négocier aussi. Là après, ils font leur boulot de dirigeant, c'est normal. Ouais, mais c'est normal. Il y a certains clubs qui vont très très mal aujourd'hui en Ligue 1, pour pas en citer,
Saint-Étienne par exemple,
ou Anvers, voilà. Où effectivement, à un moment donné, je pense que c'était beaucoup plus facile de négocier avec eux. Peut-être plus maintenant.
Oui, lâcher les salaires. Un peu surréaliste.
Ah oui, on le sait, ça a été fait. Ouais.
Mais surtout, juste pour compléter sur Loïc Désiré, c'est quelqu'un qui a passé 10 ans à l'Ajax d'Amsterdam, mmh, et qui est venu avec ces méthodes-là qui fonctionnent bien ailleurs. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément ces cellules de recrutement aussi bien développées. Ce que le Racing essaie de construire avec déjà quasiment une dizaine de recruteurs qui sillonnent l'Europe, voire le monde. Alors qu'en France, on a l'habitude parfois, si je prends le cas de Nantes, d'avoir un agent qui s'occupe lui-même
tu choisis le mauvais.
L'exemple,
bien ciblé. Ouais.
Il y avait Saint-Étienne qui fonctionnait aussi comme ça, par exemple. Enfin voilà. Alors qu'à Strasbourg, c'est un peu plus méthodique, c'est un peu plus inspiré de ce qui se fait un peu à l'étranger, l'Ajax ou l'Allemagne.
Deuxième but de Lens, Lucas.
En effet, c'est Sotoka qui a doublé la mise, le doublé pour lui, 47e minute de jeu. C'est un centre sur le côté de Traoré pour Banza qui tente une madjère. Finalement, elle est complètement ratée, mais Sotoka a très bien suivi les Lensois qui sont revenus tambour battant, en tout cas sur cette pelouse. Et une nouvelle fois, les Parisiens se sont fait surprendre. Manque d'engagement de la part des Parisiens. 52e minute de jeu, 2-0 pour les Lensois.
Merci Lucas, à tout à l'heure.
On a eu une expression du passé.
De quoi, laquelle ?
Tambour battant,
effectivement. Oui. Frédéric, Maxime, Philippe, avant que vous partiez, vous savez qu'on a dans notre bande de la Dream Team RMC Franck Leboeuf, qui a quand même marqué son époque ici, quand même, qui était meilleur buteur du club en étant défenseur central, il faut quand même le faire. Il devait au départ venir avec nous, sauf que ce soir, il a théâtre. Vous savez que le théâtre, maintenant, pour Franck, voilà, c'est comme le match.
Important,
hein. C'est la nouvelle passion. Ouais.
C'est Hollywood, hein. On n'est pas loin.
Mais tout de même, je vous ai ramené un truc. Parce que Franck, un jour, il s'est pointé à la radio, il m'a donné tous ses maillots du Racing. Ah, donc ça, c'est pour vous. C'est cadeau pour la fête des supporters.
Le fameux cadeau caché.
Je vais te laisser
ouvrir. Attendez, n'applaudissez pas, faut qu'il ouvre. Ouais. Ouvre-le, on a envie de le voir, mais je ne l'ai pas vu.
C'est un maillot de Stade Lanois.
Si c'est naze, voilà. Donc, c'est la fiche de sa pièce de théâtre, en fait.
On voit si c'est bien.
Voilà.
Ah, c'est un vrai maillot.
Ah, bah, c'est pas que c'est un faux quand même, non?
C'est le maillot de Tourtel.
Voilà. Il est beau. Le maillot Tourtel de Franck Leboeuf. Voilà.
Magnifique.
C'est le cadeau de l'after.
Merci beaucoup.
Merci en tout cas de nous accueillir.
Je vais faire signer.
Non, mais là, c'est comme là même, il y a encore la sueur et tout. Il y a encore les auréoles.
Là, quand même, tu viens de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je l'ai vu. Je sais pas si les autres l'ont vu, mais t'as retourné le cadre pour voir si on voyait le nom derrière. Là, je dois dire que là, c'est quelque chose quand même, là, ce que t'as fait là.
Non, c'est artisanal. Merci les gars, en tout cas. Dans quelques instants, on reçoit Arnaud Zimanski pour parler du rôle de référent supporter. On est là jusqu'à minuit avec vous ici en direct de Strasbourg. On parlera également de Lyon dans quelques minutes. Est-ce que la bonne passe lyonnaise du moment est juste une illusion? Supporter lyonnais, vous attend d'ores et déjà au 32-16. Merci Maxime, merci Philippe. Et merci à vous.
RMC, l'After Foot en direct de Strasbourg.
This ad is made from 100% recycled commercials. Just like Smart Water's
all new
bottles are made from
100% recycled
plastic.
What's that number again?
100%. Every Smart Water bottle is made using recycled plastic, and because it's still
100%
recyclable, the plastic will be used again
and again.
Smart Water, now in a 100% recycled plastic bottle. Label and cap 100% recyclable but not made from recycled plastic. Yet. We're working on it.